Salut à tous, ici Pierre et Hugo Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre de notre projet Since Nothing, où nous donnons la parole à des artistes, tatoueurs, musiciens, photographes, riders, bref à des personnes évoluant au cœur des cultures alternatives. Notre souhait est de discuter avec eux de certaines normes, pressions et attentes sociales dans le but de les déconstruire, de comprendre comment elles peuvent être un frein à notre propre émerveillement, comment nous approprier ce dernier et d'appréhender les rapports qu'entretiennent nos invités face à la vie et au monde, vis-à-vis du contexte sociétal dans lequel nous évoluons. Nous espérons que ces échanges peuvent vous aider à mieux vous estimer, en tant que personne, à peut-être entrevoir le monde différemment, malgré un contexte sociétal parfois étouffant. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons eu le plaisir de recevoir Rémi Oudguiri. Rémi est sociologue et directeur général de Sociovision du groupe IFOP. En 2021, il publie son livre « Éloge du petit matin » afin de nous faire prendre conscience que l'art de vivre est à chercher dans la splendeur plutôt que dans la performance. Dans cet épisode, avec Rémi, nous avons discuté de son livre « Éloge du petit matin » où, à travers son expérience de l'aube, nous évoquons sa vision de l'émerveillement et de la nécessité d'aller chercher ce dernier dans notre propre quotidien. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes aux souffrances mentales ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait extrêmement plaisir.
Merci à vous.
Déjà peut-être pour introduire ce podcast, et je pense que ça sera un peu le thème central de cet épisode, qu'est-ce que pour vous l'émerveillement ?
Alors l'émerveillement, c'est une... comment dire ? C'est quelque chose que j'essaye de faire presque chaque jour. C'est d'abord d'être attentif à ce qui nous entoure. L'émerveillement, c'est le contraire des habitudes, des routines, puisque en fait on vit notre vie en suivant des routes qui sont souvent déjà tracées, on suit des cadres, on suit des chemins, des balises, et en fait l'émerveillement c'est la capacité à sortir du cadre, à sortir du chemin et à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Alors quand je dis regarder, ça peut être simplement les sentir, les écouter et trouver en elles des choses qu'on ne trouve pas dans la vie ordinaire. Les surréalistes parlaient du merveilleux quotidien, et ce qu'ils voulaient dire par là, c'était que il fallait chercher ce qu'il y avait d'insolite, de décalé, parce qu'il y avait dans ce décalage quelque chose de beau, en fait, quelque chose qui nous faisait plaisir. Et pour moi, c'est ça, s'émerveiller. C'est sortir du cadre pour regarder le monde autrement, dans ce qu'il a vraiment à nous offrir, et non pas dans ce que les guides touristiques, notre éducation, tel ou tel expert nous dit de voir, de regarder ou d'entendre. C'est vraiment essayer d'avoir une relation authentique au monde. Ce qui veut dire que l'émerveillement est quelque chose de très individuel, en fait. Chacun a sa capacité à s'émerveiller qui est différente d'un individu à un autre.
Mais ce qui est intéressant, bon, j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais je pense qu'on peut en parler dès à présent, c'est que avec votre travail, notamment votre ouvrage Le Petit Éloge du Matin, c'est que vous appelez en fait à un émerveillement du quotidien, quoi.
Oui, moi, il y a une phrase de Borges que j'adore qui dit que la poésie peut surgir à tout moment au coin de la rue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la peine d'aller très loin pour s'émerveiller, pour découvrir des choses belles. En fait, elles sont autour de nous, en réalité. C'est simplement que on n'y est pas du tout attentif. Alors, en particulier à notre époque, parce qu'il suffit de se balader dans les rues pour voir que la plupart des gens regardent le sol. En fait, ils regardent leur smartphone, ils ont les yeux rivés sur leur smartphone, ils sont penchés. Et en fait, ils ne voient rien de ce qui les entoure. Ils n'ont jamais le réflexe de regarder autour d'eux, ils n'ont jamais le réflexe de regarder au-dessus d'eux. Et donc, ils passent à travers des merveilles dont ils n'ont même pas l'intuition, le soupçon qu'elles sont là. Et oui, je pense que ma conviction, c'est que les plus belles choses sont sous nos yeux. Et simplement, nous ne les regardons pas. Voilà. Et c'est pas la peine d'aller à des milliers de kilomètres pour voir de belles choses. Les belles choses sont là, en fait. C'est juste le regard qu'on porte sur elles qui est important. Je vais vous donner un exemple très frappant qui m'est arrivé il y a quelque temps. Régulièrement, je passe par... j'ai un parcours le matin, quand j'arrive, je travaille à Paris, mais j'habite en dehors de Paris. J'arrive à la station d'Enfer-Rochereau. Et je sors, et puis je prends un chemin, et j'ai un rituel, prendre mon petit déjeuner dans un certain café. Et puis la dernière fois, j'ai levé à un certain endroit les yeux vers le ciel, et puis j'ai vu un immeuble avec des mosaïques très, très originales, très belles, que je n'avais jamais vues jusqu'à présent. Et pourtant, je passe régulièrement là. Et ça m'a donné... C'était un petit émerveillement, mais qui m'a fait plaisir. Et je me suis aperçu qu'en effet, voilà, on ne regarde pas suffisamment les choses. Et il y a toujours, dans les chemins, y compris les chemins les plus quotidiens, des choses belles à regarder, en fait. Et qui... voilà. Et c'est ce petit détail. Alors, ça peut paraître rien pour la plupart des gens, en fait. Hein, mais ces petits détails, c'est ce qui nous permet de vivre une vie... avec des émotions, vous voyez, cette mosaïque, peut-être qu'elle aurait indifféré n'importe qui d'autre, hein, bien sûr, mais moi, elle m'a pas indifféré. Et comme ça, chaque jour, on peut découvrir des choses qui nous parlent, en fait. Parce qu'en réalité, moi, ma conviction, c'est que nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes choses, et il y a un peu partout des choses qui nous attendent. Ça peut être des êtres vivants, des animaux, ça peut être des détails, ça peut être des arbres, ça peut être la nature, ça peut être la ville. Mais si on n'y est pas attentif, elles ne nous parleront jamais. Elles parleront dans le vide. Et l'émerveillement, c'est cette capacité à faire un pas de côté et à accueillir ces messages qui nous sont destinés. Voyez. Et je pense qu'il y a plein de gens qui passent une grande partie de leur vie sans écouter ces messages. Et puis, je sais pas, à 40 ans, à 50 ans, à un moment de leur vie, ils s'aperçoivent, mais tiens, c'est beau, ça, de se lever le matin, c'est beau, de regarder ceci, c'est beau, d'écouter les oiseaux, etc. Alors, il n'est jamais trop tard, évidemment, mais ils auront passé une très longue partie de leur vie sans être attentifs à ça. Et moi, j'essaye d'être présent au rendez-vous, et je pense qu'il y a des rendez-vous tous les jours.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre société, on a l'impression que quand on parle d'émerveillement, c'est se confronter à quelque chose d'exceptionnel, et c'est souvent un synonyme de voyager loin pour rencontrer un peu l'inconnu, alors que ouais, l'émerveillement, en fait, est aussi dans le connu, quoi. C'est savoir s'étonner, en fait, de l'étrangeté du connu, quoi.
Oui, oui, tout à fait. C'est le grand fantasme de notre époque, d'aller chercher dans une île à des milliers de kilomètres, une île tropicale ou je ne sais quoi, des conditions paradisiaques. Les publicités en sont pleines, et puis même l'imaginaire de beaucoup de gens. Et donc, évidemment, les gens sont frustrés, ils se disent, ouais, ils sont obligés de rester dans les villes grises, nuageuses, mornes, et alors que d'autres sont aux Bahamas, sont à Acapulco, sont je ne sais où, vous voyez. Mais c'est une erreur, en fait. Le paradis est là, devant nous. Il suffit juste de regarder. D'y être attentif, en fait. Et c'est simplement parce qu'on a mis dans nos, on nous a conditionné d'une certaine manière à penser que le paradis était loin de nous. Et donc il y a toute une industrie touristique qui a intérêt à ce qu'on croit ça, parce que voilà, ça fait de nous des touristes qui se conforment à ce modèle. Le paradis est devant nous. Simplement, nous devons simplement le regarder. Et il y a plein dans la littérature d'exemples d'écrivains qui sont convaincus de ça. Hein. Je pense à Giono, hein, qui était amoureux de là où il vivait, à Manosque. Il a très peu quitté Manosque, il a un peu voyagé, mais fondamentalement, il était heureux là où il était, parce que à chaque fois qu'il se promenait tout autour, bah, ils voyaient des choses nouvelles, en fait. Et plus vous sillonnez le même lieu, et plus vous rendez compte, en réalité, que c'est pas le même lieu. En fait, chaque jour, il est différent, selon la lumière, selon les sons, selon la saison, enfin, voilà. Et oui, oui, moi, je suis vraiment convaincu de ça. C'est vraiment une de mes convictions. C'est que tout est à portée de main, en fait. Simplement, il y a toute une série d'acteurs économiques et puis il y a toute une série de représentations qui veulent vous faire croire que tout est très loin en fait. Et donc évidemment, ça fait de vous quelqu'un de frustré. Mais et la plupart des gens, donc ils attendent le moment des vacances après avoir économisé énormément d'argent pour partir loin. Et là, ils sont tout contents. Mais ils sont tout contents d'aller dans des villes qui sont saturées de gens tout aussi contents que en réalité. Voilà, ils se retrouvent tous dans les mêmes destinations. Bien heureux celui qui ne suit pas ces chemins-là, et bien heureux celui qui a conscience qu'il suffit de se promener finalement pas très loin de chez soi et qui, s'il se met à l'écoute de son environnement, va découvrir beaucoup de choses très, très intéressantes.
Cet émerveillement du quotidien que vous décrivez, ça permet aussi en fait de s'approprier à chacun son quotidien, le lieu où il habite, mais en dehors aussi des idées préconçues au final. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, en dehors des préjugés, de ces idées préconçues, on est libre en fait de s'inventer le lieu de se réinventer le lieu où on habite, quoi.
Exactement. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La société très secrète des marcheurs solitaires », où je fais l'éloge de la marche sans but. En fait, moi, je recommande à chacun de visiter des villes sans guide, en fait. Il faut, si vous voulez visiter une ville, par exemple, vous partez au hasard dans la ville, et puis vous allez où vous mène votre inspiration, votre intuition, vos sensations, et elles ne vous tromperont pas. Et vous allez ressentir des choses qui ne sont pas dans les guides, qui n'ont pas été consignées des milliers de fois par des experts ou je ne sais quoi. Vous allez vraiment aller à la rencontre du monde. Et pour moi, effectivement, il y a une double invention. Il y a l'invention du monde, parce que le monde que vous allez inventer, il n'est pas dans les guides. Il est ce que vous allez en faire en fonction de là où vous allez aller. Et puis vous allez vous inventer vous-même, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous aimez plus que d'autres. Vous allez faire la rencontre d'un lieu qui va vous parler soudainement d'une ambiance, d'une atmosphère, d'une certaine lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a énormément de choses. Et moi, je recommande vraiment de faire au moins une fois dans sa vie cette expérience. Mais pour ça, il faut avoir... il faut savoir s'émanciper de ce qu'on nous a mis dans la tête. Combien de gens vont faire un voyage et reviennent en disant « Voilà, ça y est, je l'ai fait, j'ai coché. » Et ils sont tout fiers de vous dire qu'ils ont vu ça. C'est-à-dire ce que le guide leur a dit de voir, en fait, vous voyez. Mais à aucun moment, ils se sont... Moi, je trouve assez triste ces voyages où on vous transporte d'un lieu à un autre, vous voyez. Vous allez dans de belles destinations, vous avez des guides tout le temps et vous avez une demi-heure pour faire ceci, une demi-heure pour faire cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Le voyage organisé, c'est l'anti-émerveillement. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire d'autre que... Et puis après, vous êtes tout fiers de revenir avec vos photos et de les montrer à vos proches. Vous êtes tout fiers d'avoir fait ce que tout le monde a fait. Voilà. Et moi, je pense que c'est... Oui, il y a quelque chose de l'invention de soi-même dans l'émerveillement aussi. C'est-à-dire dans cette capacité à aller à la rencontre du monde.
Mais il y a un truc, moi aussi, qui m'étonne des fois. Là, on parlait de voyage. On dit souvent, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont en Amérique du Sud et dire on va là-bas parce qu'il y a énormément d'oiseaux colorés, par exemple. Vous savez qu'en France, quand on voit qu'on a des martins pêcheurs, certains rouges-gorges, des mésanges qui aussi arborent tout un tas de couleurs, je me dis peut-être qu'en fait, on n'arrive plus à regarder ce qu'on a autour de nous, et c'est peut-être dû aussi un peu à toutes les contraintes qu'on a dans nos vies au quotidien. La société nous a rempli de contraintes, d'obligations, de normes à respecter, et peut-être qui nous enlève un peu cette capacité à regarder autour de nous, quoi.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Je pense que de toute façon, la plupart d'entre nous avons une vie qui est déjà bien remplie. Il y a le travail, il y a la famille, il y a toute une série d'événements ou de loisirs qu'il faut absolument avoir vu. Aujourd'hui, la question rituelle, c'est sur quelle série tu es en ce moment. Ce que ça révèle, ça veut dire qu'il faut voir des séries. C'est-à-dire qu'il faut faire comme tout le monde. Et si on ne fait pas comme tout le monde, on est presque un loser quelque part. Vous voyez, moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que le loser, c'est celui qui est obligé de faire la même chose que tout le monde, si vous voulez, qui va voir les mêmes choses, qui va dire les mêmes trucs. Enfin, non, et donc au final, votre vie, c'est celle d'un robot. Enfin, vous pourriez avoir un robot qui fait la même chose. Non, moi, je veux échapper justement à cette vie de robot. Et par exemple, toutes les semaines, je pars à l'aube. Plutôt dans l'Île-de-France, hein, mais ça peut être parfois ailleurs, mais et je vais dans des lieux, et je suis plutôt attiré par les lieux que personne ne va voir, vous voyez, là où nous. Récemment, j'ai fait une expérience assez insolite et en même temps assez belle. Il y a un livre d'Emmanuel Bove qui s'appelle Bécon les bruyères. Et c'est un livre qui a été publié, je pense, dans les années 30, où il parle de cette petite ville, cette petite commune, avec ses habitants, etc. Bon, il en fait un livre qui est devenu un mythe. Et donc, je me suis dit la dernière fois, bah tiens, je vais aller visiter Bécon les bruyères. Et donc, il y a effectivement, dans la région Île-de-France, une ville qui s'appelle Bécon-les-Bruyères, une station de RER, donc j'y suis allé. Et en fait, je me suis aperçu qu'en sortant de la gare, à droite, il y avait Courbevoie, à gauche, il y avait Asnières. Donc, je suis allé à Courbevoie, je me suis dit, mais où c'est Bécon-les-Bruyères? J'ai rebroussé chemin, je suis allé à Asnières, mais où c'est Bécon? Et en fait, cette ville n'existe plus. Et j'étais émerveillé par ça, en fait, parce que en fait, c'était une ville qui était devenue un imaginaire. Et il y avait bien Courbevoie, il y avait bien Asnières. C'était d'ailleurs intéressant de se balader le matin, alors le matin parce que c'est magique hein, le matin. Et voilà, c'est des expériences comme ça, si vous voulez, que j'aime faire, qui ne sont pas des expériences, c'est pas des prouesses, c'est pas des choses hyper incroyables, mais c'est des choses qui m'apportent beaucoup de plaisir.
Mais en parlant justement un peu, on va dire, d'obligations et normes de la société, nous, il y a un truc qu'on a particulièrement aimé dans votre essai Éloge du petit matin, c'est que vous allez aussi à contre-courant du fameux Miracle Morning, qui cherche quelque part, en fait, à rentabiliser ce moment-là de la journée. Et vous faites de l'aube un vrai moment poétique. Est-ce que le Miracle Morning n'est pas un symptôme qui montre que la performance a pris le dessus sur la poésie?
Oui, alors je pense que alors le Miracle Morning. Alors déjà moi depuis très 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 longtemps, je me lève le matin aux alentours de 5 heures. C'est une habitude que j'ai prise assez tôt. Alors au tout début, hein, c'était parce que je devais réviser mes leçons étant au collège, au lycée. Et puis après, c'est devenu autre chose. C'est-à-dire que je me suis aperçu que l'aube était un Comment dire, c'était un espace-temps préservé du reste de la journée, parce que c'est un moment où il y a très peu de gens qui se lèvent très tôt le matin. Donc c'est un moment où il y a du silence. Alors quand je dis silence, mais c'est un silence habité par le murmure de l'aube. Et le murmure de l'aube, ce sont les oiseaux, c'est la rumeur du monde qu'on entend, des petits bruits furtifs, etc. Et puis je me suis aperçu que c'était un moment très calme où vous étiez pas en société, donc vous étiez pas en représentation. Et donc au fil des années, j'ai fait de ce moment un moment clé dans ma vie, c'est-à-dire entre 5 et 7 heures, on va dire, avant l'entrée dans la vie sociale, il y a un moment très particulier dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Et alors, en 2016 est paru le Miracle Morning, et je me suis précipité sur ce livre en me disant, tiens, enfin quelqu'un qui parle de cette passion que j'ai pour le matin. Et je me suis dit, tiens, ça c'est... Voilà, j'étais très excité à l'idée de lire ce livre, et quand j'ai commencé à lire, j'ai très vite déchanté, parce que je me suis rendu compte en réalité que c'était pas du tout ce que moi j'y voyais, c'est-à-dire un moment de liberté, un moment de beauté, un moment de calme. Non, non, c'était un moment. En fait, il demandait à ses lecteurs de se lever plus tôt pour optimiser leur temps, c'est-à-dire pour être encore plus performant. Hein, c'était dans une logique de développement personnel très américaine. Vous levez plus tôt, alors il recommandait de faire de l'exercice physique, de faire un peu de méditation, de faire de. Enfin bref, de faire de ce moment un moment de préparation à la journée, qui est une journée en effet où on va essayer d'être le meilleur. C'est très compétitif comme vision du monde. Alors que moi, c'était l'inverse. C'est justement pour échapper à tout ça. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est le moment enfin où vous pouvez échapper à la comédie sociale, à la tyrannie de la compétition, à toute cette comédie qu'on est obligé malheureusement parfois de faire dans la vie sociale, si vous voulez. Voilà. Donc c'est pour moi et c'est pour ça que j'écris ce livre d'ailleurs. Ce livre est une réaction au Miracle Morning. C'est-à-dire que c'est un livre qui veut réhabiliter une expérience qui est celle des matinaux, qui se lèvent tôt, non pas pour être plus fort que les autres, mais au contraire pour accueillir le moment très très magique de la naissance du monde. Parce que tous les matins, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que tout renaît. Vous voyez, tout renaît. Et être dans ce moment où tout renaît, c'est vraiment un moment où soi-même, on a le sentiment de renaître.
Mais d'ailleurs, je crois que ouais, Miracle Morning, c'était le livre... Enfin, je crois que l'auteur, c'était Hal Herold. J'avais marqué ça, ouais. Mais d'ailleurs, en fait, ouais, dès la quatrième de couverture, c'est qui met... j'avais noté debout, vous avez rendez-vous avec le succès, quoi. Donc c'est vraiment...
Oui, voilà. Donc c'est vrai que... Non, moi j'ai pas rendez-vous avec le succès, j'ai rendez-vous avec la beauté, j'ai rendez-vous avec la poésie, j'ai rendez-vous avec quelque chose qui est gratuit, enfin quelque chose qu'on n'achète pas, vous voyez. C'est l'inverse du Miracle Morning. Le Miracle Morning, au final, si vous voulez, je résume, c'est levez-vous plus tôt pour être plus fort et plus riche.
Mais est-ce que la difficulté, c'est que dans notre monde actuel, on a un peu l'impression que voilà, l'histoire de compétitivité, de la performance, c'est un peu le monde sérieux, et puis que le monde poétique, en fait, c'est un peu de la fantaisie, quoi.
Oui, mais ça a toujours été un peu ça. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ça a toujours été ça. Les poètes, non, on parle de poètes maudits. Enfin, les poètes n'ont jamais vraiment été pris au sérieux. D'ailleurs, si les poètes avaient été pris au sérieux, on n'en serait pas là. Donc non, la poésie, c'est l'antidote contre ce monde de la performance. Après, moi, je ne suis pas un révolutionnaire. C'est-à-dire que dans mon dernier livre qui s'appelle L'échappée belle, je parle de ce que je fais comme une sorte de révolte calme. Donc, moi, je suis un révolté, mais calme. C'est-à-dire que je ne cherche pas à rompre le système. En revanche, je cherche à vivre de façon la plus préservée possible dans ce système, en fait. Donc, c'est un peu ça le sens de beaucoup de ce que je fais. Je pense que tous ceux qui ont essayé de faire de la révolution dans les, par exemple au XXe siècle, ça s'est terminé en bain de sang, si vous voulez. Donc voilà. Donc je prends acte du fait que voilà, on vit dans des sociétés qui est très compliqué de remettre en cause. En revanche, je pense qu'il est absolument fondamental de se préserver dans ce monde-là, de préserver sa part singulière, de préserver sa part personnelle, de préserver sa part de poésie, de beauté, etc. Et pour ça, il faut aller à rebours de ce discours de la performance qui est partout aujourd'hui et qui est d'autant plus fort aujourd'hui qu'il y a de nouvelles révolutions qui nous attendent avec l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, c'est la promesse qu'on va aller encore plus vite, qu'on va faire encore mieux, qu'on va être encore plus efficace. Enfin, vous voyez, et je pense que ça épuise les gens, ça les rend pas vraiment heureux, ça les monte les uns contre les autres. Et je pense qu'on a absolument besoin de faire l'inverse.
Il y a un truc qui est aussi intéressant, c'est que justement, vous dites que vous réalisez pas votre expérience de l'aube à la contemplation, vous l'habitez. Alors comment habitez-vous l'aube ?
Oui, c'est vrai que pour moi, c'est d'ailleurs le livre à l'origine dans sa première édition s'appelait Habiter l'aube. C'était une référence à Giono, qui parlait d'habitation magique. Il disait l'homme doit vivre dans le monde à travers des habitations magiques. Et j'avais été fasciné par ça. C'était l'idée que il faut rendre beau l'espace dans lequel on est. Et pour moi, l'aube, c'est pas seulement un moment, c'est aussi un lieu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un lieu préservé. C'est-à-dire que le reste de la journée, vous êtes dans le monde social, donc vous êtes dans l'habitation sociale d'une certaine manière, vous allez travailler dans votre administration, dans votre entreprise, je ne sais où, dans vos chambres, hein, bref, c'est le moment du travail. Mais l'aube, c'est le moment où vous êtes dans un lieu qui n'est qu'à vous, en fait. Et donc moi, la manière dont j'habite ce lieu, elle est assez diverse. En général, à partir du printemps, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à l'automne, très souvent, notamment en fin de semaine, je pars marcher dans l'aube et j'essaie de découvrir toujours des choses nouvelles. Donc je vais toujours dans des lieux un peu différents. Et je me laisse guider par mon inspiration. Et donc, en fait, ce qu'il y a de très beau quand vous partez, alors j'adore partir quand il fait encore nuit Et au fur et à mesure que je marche dans un quartier donné ou dans une ville donnée, je vois le jour se lever et puis la vie se ranimer. Vous voyez, on part du silence, les oiseaux arrivent, les premiers habitants de l'eau, qui sont souvent les premiers travailleurs, et puis après progressivement, ça c'est comme une symphonie où chaque musicien commence à jouer sa partition, et donc à la fin ça fait un bruit énorme, vous voyez, donc à 10 h du matin, ça y est, tout est réveillé, donc la magie est terminée, si vous voulez. Mais la magie, c'est d'accompagner ce mouvement-là. Donc je marche beaucoup à l'aube, mais j'utilise aussi l'aube pour d'autres choses, pour lire, pour écrire, pour aussi regarder des films. Je conseille à chacun de regarder au moins une fois dans sa vie un film tôt le matin. Parce que enfin, on est beaucoup plus disponible le matin que le soir, en fait, parce qu'on a, on n'est pas, on est, notre esprit n'est pas envahi par les souvenirs de la veille, enfin de la journée, si vous voulez. Et donc vous êtes vierge. Et donc, si vous regardez un film le matin, vous apercevrez que vous le regardez avec beaucoup plus d'attention, vous êtes beaucoup plus attentif aux détails. Et donc c'est un autre plaisir. Et je sais que les gens à qui je l'ai recommandé, qui l'ont fait, m'en sont reconnaissants. Parce que c'est vrai que ça paraît. Là encore, il faut aller contre l'esprit de l'époque qui dit qu'il faut voir les films plutôt l'après-midi, le soir. Non, non, non. Et voir le matin. Bon, il y a des séances le matin aujourd'hui à 10 h, mais moi je dirais qu'il faudrait ouvrir les cinémas à 6 h du matin.
Mais moi je le vois un peu avec la lecture, enfin, je lis le soir avant de me coucher, puis je lis le matin quand je me lève, et je sens que je suis beaucoup plus en fait vif le matin quand je lis, quoi.
Oui, non, mais c'est une évidence. C'est absolument évident parce que vous êtes réveillé, vous êtes disponible, vous avez. Encore une fois, la vraie différence entre le soir et le matin, c'est que le matin, tout est nouveau. Le soir, vous avez quand même tout ce qui s'est passé dans la journée qui est là, et puis vous avez la fatigue accumulée, évidemment. Mais donc, ça fait des filtres, si vous voulez. Donc, si vous allez au cinéma, vous allez quand même, bon, vous allez être attentif, mais il va y avoir des filtres. Si vous lisez, vous allez avoir des filtres. Le matin, vous n'avez aucun filtre. Et donc, c'est cette fraîcheur du matin qui est absolument extraordinaire, en fait. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas seulement un mot, enfin, c'est pas seulement du temps, c'est de l'espace aussi. Vous êtes dans un espace qui n'est qu'à vous, que vous occupez comme vous le voulez. Et évidemment, le malheur, c'est que chaque jour, ça s'arrête. Parce qu'après, il faut aller travailler, voilà, il faut aller faire. Chacun contribue à la société d'une manière ou d'une autre. Mais ce moment-là est un moment qui nous préserve vraiment de beaucoup de choses.
J'ai l'impression du coup qu'il y a une. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça aussi que je le ressens, mais que pour profiter de l'émerveillement ou prendre de l'aube, il y a quand même une idée que c'est quelque chose de très solitaire aussi. Et oui, il y a quelque part, c'est un endroit aussi où on se retrouve soi-même. J'ai l'impression qu'il y a aussi, peut-être aujourd'hui, il y a aussi peut-être une difficulté à vouloir se retrouver seul avec soi-même. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu constater ou vous partagez à ce niveau-là, mais où effectivement on cherche plutôt, bah, notamment par exemple avec les réseaux sociaux ou au cours de la journée, c'est plutôt être connecté aux autres, alors que, effectivement, enfin, moi je trouve que c'est aussi important de savoir rester seul et puis de savoir en fait partager quelque chose avec soi-même, quoi.
Oui, alors, plusieurs choses. D'abord, on peut marcher à l'aube accompagné. Donc, je ne crois pas que. Après, si vous voulez, la difficulté, c'est de trouver des personnes qui partagent ce goût de l'aube. C'est plutôt ça qui est compliqué. Mais si vous avez des amoureux de l'aube autour de vous. Alors après, il ne faut pas être trop nombreux, en effet, parce que c'est. Mais solitaire ou à deux, je pense que c'est tout à fait praticable. Hein. Ben, de fait, moi, je le fais. Après, sur la solitude, je pense qu'on apprécie d'autant mieux la présence des autres qu'on a des moments où on est seul. C'est-à-dire que pour moi, c'est. La vie idéale, c'est un va-et-vient entre soi-même et les autres. Mais pour être soi-même, il faut à un moment donné se couper des autres, parce que sinon, on ne sait pas qui on est. Vous voyez, donc c'est un équilibre qui n'est pas facile à faire, si vous voulez, à établir entre la part de solitude et la part de rapport aux autres. Mais je pense que pour avoir une bonne connexion avec les autres, il faut d'abord avoir une bonne connexion avec soi-même. Et pour avoir une bonne connexion avec soi-même, ça passe nécessairement part de la solitude à un moment ou à un autre. Sinon, on n'est jamais vraiment soi-même. Vous voyez, celui qui serait 100% social serait 100% le reflet des autres et pas lui-même. Et moi, c'est quand même une de mes obsessions depuis très longtemps de trouver ma voie qui ne soit pas celle des autres, en fait. Non pas pour le plaisir d'être différent des autres, mais parce que ma conviction, c'est que on a tous quelque chose d'unique qui est en nous, un peu quelque chose... Alors très mystérieux, pourquoi est-on cela et pas autre chose, mais il me semble que, en tout cas dans ma société idéale, chacun aurait la possibilité de déployer sa singularité jusqu'à son terme, si vous voulez, et chacun en faisant cela apporterait une couleur, une nuance différente à l'arc-en-ciel de l'humanité. Donc ça c'est un peu utopique comme vision du monde, mais c'est un peu ma vision, c'est-à-dire que en tout cas, ma conviction, c'est que on nous incite beaucoup trop à faire la même chose et on en paye le prix par le surtourisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que partout il y a tellement de monde qui voit toujours les mêmes choses, les queues devant certains restaurants, je trouve ça assez risible. En fait, il y a un choix infini. Enfin, il n'y a pas besoin de tous se mettre les uns à côté des autres. Enfin, vous voyez, je ne comprends pas d'ailleurs à titre personnel pourquoi des gens supportent d'aller dans des lieux, regardez ces plages bondées où vous êtes les uns à côté des autres entassés, comme vous voyez. Je vois pas le plaisir qu'on peut en retirer. Vous voyez, voilà.
Enfin, là, ce que vous dites, c'est quand nous on en fait un peu l'expérience. Bon, on habite à Annecy, c'est une ville qui est assez touristique, mais en tout cas, l'été, nous on prend beaucoup plus de plaisir d'aller tôt au lac se baigner qu'en fait l'après-midi où il y a tout le monde, parce que en fait c'est un espace où on se sent plus libre en fait de vagabonder sans le regard des autres, quoi.
Oui, mais en fait, faites l'expérience d'aller vous promener dans un quartier, moi je le fais toutes les semaines, à l'aube, c'est-à-dire vers 5-6 heures, et la même chose vers 11 heures, midi. Et vous verrez tout de suite la différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'entre 11h et midi, ben, vous ne voyez rien du tout de ce quartier. Parce qu'il y a tellement de gens que vous êtes attentifs aux gens, ne serait-ce que pour vous déplacer, pour pas... comment dire, pour pas les gêner, enfin pour pas vous gêner vous-même, vous voyez. Et d'ailleurs, moi, très souvent, le week-end, ma journée commence à 5-6 heures, et puis à 10-11 heures, c'est fini. Vous voyez, je cherche les lieux où il n'y a plus personne. Donc, et quand il n'y a personne, si vous voulez, vous voyez les choses, vous êtes attentif, vous pouvez vraiment. Contempler. Il y a le même problème dans les musées aujourd'hui. Hein. Les musées aujourd'hui, c'est une expérience qui est devenue d'une qualité extrêmement médiocre parce que, alors c'est la rançon du succès. D'un côté, on aurait se félicité qu'il y ait tant de gens qui aillent au musée, mais de l'autre, il y a quelque chose qui se perd parce que il y a tellement de gens que vous avez du mal à circuler, vous avez du mal à voir. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour prendre les photos de tableaux qui prennent à peine le temps de regarder parce qu'ils prennent comme par hasard les tableaux qui sont dans les guides, que tout le monde a déjà vu 1000 fois. Bon, bref. Vous voyez, et ça, c'est un peu effectivement une société enfin, c'est les intérêts économiques qui font qu'il faudrait que tous les musées soient pleins parce qu'il faut rentabiliser tous les investissements. Donc vous voyez, c'est la logique, une logique très économique qui a intérêt à ce qu'on soit extrêmement nombreux dans les musées. Alors après, le discours officiel, ça sera assez génial, c'est la démocratisation culturelle, mais la réalité du vécu de chaque individu, s'il est honnête avec lui-même, c'est que c'est quand même pénible d'avoir à toujours faire attention de ne pas écraser le pied de l'un, de ne pas brusquer l'épaule de l'autre. Enfin, vous voyez, et après, disant cela, je me rends bien compte que c'est ambivalent, si vous voulez. Tout le monde a le droit d'aller dans les musées, tout le monde a le droit à son... je pense qu'on a aussi le droit de dire que quand il y a trop de personnes dans un même lieu, bah là, il n'y a plus d'expérience.
Ouais, est-ce qu'il faudrait en fait réserver des créneaux avec des certaines jauges en fait, et puis que ça dépasse pas pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour tout le monde et puis qu'il puisse profiter pleinement de,
Oui, je pense
de
qu'on va
musée,
vers
quoi.
ça. C'est tout à fait ce qu'on voit. Hein. Ben, dans l'actualité, il y a Venise hein,
Ouais,
qui
tout
met
à
un
fait,
droit
ouais.
d'entrée. Oui, on va aller de plus en plus vers ça, de toute façon, parce que quiconque est allé à Rome, à Florence ou à Paris, tout simplement, voit bien que dans certains lieux, c'est devenu complètement. Moi, je m'interroge souvent, mais quel est le plaisir qu'on peut retirer de ça, en fait?
Et puis la difficulté, enfin nous on vit un petit peu Annecy, alors c'est d'une ampleur moindre qu'à Venise, mais c'est que, en fait, nous-mêmes en tant que locaux, on nous prive aussi de ce plaisir un peu de s'émerveiller de notre quotidien. En fait, on nous le supprime un peu parce qu'il y a tellement de monde que même nous, en fait, on peut plus vraiment profiter comme on le voudrait de notre environnement quotidien, quoi. Et donc ça nous pousse aussi à aller voir ailleurs, quoi. Et
Oui, tout à
c'est
fait.
dommage, quoi.
Bah, en fait, il suffit juste de se lever tôt et vous êtes tranquille,
Tout à fait, ouais.
hein. Non, mais sérieusement, alors vous allez me dire, oui, mais bon, les cafés sont pas ouverts, etc. Bah, vous apportez vous-même votre thermos de café, et c'est réglé. Pas vrai, vous prenez deux tasses, et puis si vous êtes accompagné, et puis vous mettez là où vous voulez, et personne viendra vous faire un commentaire.
Ah, mais
Il faut
c'est... Ouais.
se réapproprier les lieux et l'aube, c'est pour ça que l'aube est un moment privilégié en fait.
Et puis nous, ça nous a poussé aussi à explorer, enfin notamment toi, Hugo, dans ta pratique photographique, mais bon, Annecy, on a souvent l'image du vieil Annecy, du lac et tout, et en fait, on en oublie tout un peu le pourtour de cette ville qui est pas du tout connue, qui est plus industrielle, et on redécouvre en fait des lieux qui sont tout aussi beaux. Et... Nous, enfin, on a réussi un peu aussi à s'extraire un peu de ce monde, en fait, en redécouvrant des lieux moins connus, moins prisés, quoi.
Moi, ma conviction, c'est que il y a énormément de choses qui sont belles, mais qui ne sont pas considérées ou perçues comme telles parce qu'il y a des critères esthétiques, voilà, qui nous sont en quelque sorte imposés. Mais moi, plus j'avance, plus je pense. Alors, je vais vous expliquer pourquoi une expérience que j'ai faite. Je me suis rendu compte de quelque chose en pratiquant cet art de la marche partout dans l'Île-de-France. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'Île-de-France est intéressant parce que vous avez beaucoup de quartiers ou de communes qui sont, comment dire, il y a beaucoup de monuments connus, si vous voulez, de monuments célèbres, voilà, parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a des artistes, etc. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi je prenais plus de plaisir dans les lieux neutres, où dont personne ne parlait, où personne n'allait jamais, où il n'y avait pas vraiment des choses incroyables à voir. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi je suis tellement attiré par ces lieux et pourquoi c'est là où je ressens les émotions les plus intenses? Eh bien, je me suis rendu compte que c'était parce que dans les lieux qui sont visités par tout le monde, où il y a de l'histoire, des monuments, etc., il y a des filtres, en fait. Et les filtres, c'est les livres que vous avez lus qui parlent de ça, les articles que vous avez lus qui parlent de ça, les guides qui parlent de ça. C'est-à-dire que vous n'approchez jamais vraiment les choses parce qu'elles sont déjà filtrées par tellement de discours
C'est
que le
vrai, ouais.
discours s'interpose entre vous et les lieux. Tandis que dans les lieux dont personne ne parle, où personne ne va, où a priori il n'y a rien d'intéressant, on va vous dire ce trou perdu, il n'y a pas ce discours-là. Donc, vous êtes en quelque sorte livré à vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui faites l'expérience. Vous aimez pas, et bien évidemment. Mais parfois, vous aimez. Je sais pas, il y a plein de lieux vous avez parlé de lieux industriels, un peu, parfois même abandonnés, vus sous certains angles, avec une certaine lumière, c'est magnifique. Vous voyez? Et c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire que c'est justement dans tous ces lieux qui sont pas répertoriés, que vous n'allez trouver dans aucun guide touristique, que peut-être réside la possibilité d'un émerveillement authentique. C'est-à-dire, là, vous allez vraiment découvrir ce que vous aimez, et non pas simplement imiter ce que des experts contemporains ou plus anciens ont décrété comme étant essentiel. Alors, je ne dis pas qu'ils se trompaient, hein, attention, mais je dis juste qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas consignées dans les encyclopédies qui sont tout aussi intéressantes. Voilà. Et c'est ça, ce que j'essaye de faire moi, c'est d'essayer de voir cette beauté du quotidien, cette beauté des choses banales, cette beauté des choses dont on ne parle jamais et qui sont des choses qui peuvent vous parler beaucoup plus qu'un monument très célèbre où il y a des centaines de livres qui ont été écrits dessus. Vous voyez?
J'avais une autre question. Quand nous parlons d'aube ou à l'inverse de crépuscule, on a souvent l'image d'un beau lever de soleil ou un beau coucher de soleil, mais l'aube en fait peut être également gris, pluvieux ou brumeux. Est-ce qu'on met pas à tort l'émerveillement, comme le dirait en fait un peu Michael Edward, du côté presque uniquement de la joie, alors que l'émerveillement peut peut-être prendre racine à travers, par exemple, un effroi, une forme aussi de mélancolie?
Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'aube, c'est pas seulement le soleil, c'est parfois des aubes grises, des aubes pluvieuses, des aubes brumeuses, des aubes cotonneuses. Et à chaque fois, l'impression est différente, la sensation est nouvelle. Et je pense que oui, on peut être un peu mélancolique. Et oui, moi j'ai appris avec le temps à justement apprécier ces moments parce que chacun nous dit quelque chose de différent, chacun apporte une nuance différente et effectivement c'est pas seulement la joie, c'est aussi moi si j'avais à dire finalement ce que je recherche le plus dans tous ces moments, c'est le sentiment d'exister. Rousseau, que j'ai lu très tôt et qui m'a beaucoup influencé, c'est à parler du sentiment de l'existence dans les rêveries du promeneur solitaire. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que je garde toujours en tête. C'est le moment où Rousseau, c'était quelqu'un qui avait du mal à supporter le monde, les hommes, parce qu'il considérait qu'il y avait une comédie sociale. Et donc, il était le plus heureux des hommes quand il était loin des hommes. Quand il était dans une île ou dans une barque, etc. Et il parle de ce sentiment d'existence. Et le sentiment d'existence, c'est quand vous vous laissez aller, quand vous laissez aller votre sensibilité, quand vous ne faites pas appel à votre raisonnement, mais que vous essayez simplement de vous laisser aller et de vous connecter finalement à ce qui vous entoure, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à ce que vous apercevez, et ça donne le sentiment de l'existence. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, le plus important. Et le sentiment de l'existence, il peut se faire sous des registres extrêmement différents, que le jour soit froid ou chaud, qu'il fasse gris ou pas. Enfin, vous voyez, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'accueillir ce qui est, de le ressentir et de se laisser porter par ça, en fait. Et ça peut être effectivement des choses très douces, des choses très intenses, des choses très joyeuses, des choses moins joyeuses. C'est de se dire que finalement, vous n'êtes pas seulement venu sur Terre pour travailler, pour vous soumettre à un modèle qui a été imposé par d'autres, que sur lequel vous n'avez aucune prise, mais vous êtes venu aussi sur Terre pour exister vraiment. Et exister vraiment, c'est être capable de regarder tout simplement. Parce que combien de gens, et ça c'est vraiment quelque chose qui me frappe toujours, ont passé toute leur existence à ne rien voir du tout, vous voyez? Et ils parlent des phrases qui sont entendues par, enfin, vous voyez, qui sont pas les leurs, en fait. Ils parlent, ils vous diront toujours que s'ils sont allés dans telle ou telle ville, qu'ils ont vu ça ou ça, ben, en fait, c'est exactement ce que dit le guide. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas eux-mêmes, en fait. Et ils traversent l'existence sans la voir.
Oui, et puis l'émerveillement, au final, c'est d'abord un étonnement, en fait. C'est déjà être disponible à ce sentiment d'étonnement, quoi. Que oui, que ça fasse beau, que ça pleuve, qu'importe, quoi.
C'est être attentif à l'inconnu, exactement, à l'insolite. Par exemple, les surréalistes, hein, moi, là aussi, j'ai beaucoup lu André Breton, lu Aragon. J'ai toujours adoré leur façon de chercher justement des choses qu'on ne voit pas si on reste dans les conventions. Non, c'est l'émerveillement, c'est voir des choses bizarres, des choses étranges, des choses, comment dire, qui ne sont pas conventionnelles en fait, qui ne sont pas conventionnelles, mais qui nous apportent quelque chose justement que la convention ne nous apporte pas. La convention, elle nous met dans les rails, et elle nous met dans le droit chemin. Non, il faut prendre le mauvais chemin. C'est ça, s'émerveiller, c'est prendre les mauvais chemins. C'est-à-dire que si on vous dit d'aller vers dans cette direction, ben vous prenez l'autre direction. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Chaque fois que je dis quelqu'un me dit il faut faire ça, je dis ouais, non, je vais faire l'inverse. Voilà. Parce que si je fais ce qu'il me dit de faire, je ferai ce qu'il a, lui, envie que je fasse. Vous voyez, je suis dans une forme de soumission d'une certaine manière. L'émerveillement, c'est la liberté. Voilà, c'est ça. Si j'avais à m'avait demandé au début de cet entretien, c'est quoi ma définition de l'émerveillement? Ben, c'est la liberté de voir, la liberté de s'étonner, la liberté de sentir. Et un monde, dans un système totalitaire, où voilà, c'est un système qui a mis fin à l'émerveillement et à la capacité d'être émerveillé.
Ouais, alors, et puis, enfin, des fois, on en discute souvent avec notre père aussi, qui est assez ouvert sur toutes ces questions, mais des fois, on se dit, c'est vrai que dans un monde. Nous, on est beaucoup porté par Albert Camus, mais on se dit, dans un monde. On va dire, on ne sert pas à grand-chose, mais on dit, en fait, le seul truc qu'on a à faire, c'est un peu à s'en émerveiller, quoi, de ce monde.
Oui, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, non, mais c'est vrai. Ouais. Et je pense que. Alors, il y a ceux qui sont empêchés d'être émerveillés parce qu'ils n'en ont pas le temps. Et à notre époque, les gens n'ont pas le temps parce qu'ils sont pris par tellement de. Par la vie des écrans, notamment, qui fait qu'il n'y a jamais de. Il n'y a jamais de répit. Une série en appelle une autre, une notification en appelle une autre, une vidéo sur Instagram ou TikTok en appelle une autre, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est jamais fini. C'est des flux permanents, etc. Soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient se permettre de le faire. Vous voyez, ils n'osent pas, en fait, parce que ça fait bizarre, en fait. Hein. Si vous lisez les poèmes surréalistes, oui, ils sont un peu bizarres. La poésie, c'est toujours un peu bizarre. C'est pas les mots, c'est les mots ordinaires, mais utilisés différemment. Vous voyez, ça fait toujours un peu peur, en fait, parce que c'est singulier, parce que c'est. Oui, c'est ça, c'est la peur aussi, la peur d'affronter ou de. L'émerveillement, ça peut faire peur, hein, parce que l'étonnement, c'est se remettre en question.
Ouais,
Et.
c'est peut-être affronter sa propre condition aussi, quoi.
Mais voilà, je pense que c'est un. En tout cas, l'émerveillement, c'est vraiment quelque chose que moi, je pense être fondamental dans nos existences. Et il faut se créer autant que possible des moments où on peut s'émerveiller. Il faut savoir s'échapper de temps en temps. Et c'est pour ça que l'aube est un moment propice à ça. Parce que à l'aube, personne ne va venir vous dire quelque chose. Vous êtes libre, voyez.
On avait une dernière petite question, justement, en parlant d'aube. Qu'est-ce qu'une journée sans aube pour vous?
Alors, une journée sans aube, ça serait une. Alors, c'est rare, hein, pour moi, parce que une journée sans aube, ça serait une journée où effectivement, j'ai pas eu ce moment de liberté. Voilà, pour telle ou telle raison. Mais après, avec le temps, je pense que les aubes, on peut aussi recréer l'esprit de l'aube, même quand l'aube est passée depuis longtemps. Ça, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le moment de liberté que je prends à l'aube, bah, si j'ai pas pu l'avoir parce que j'ai dû me lever très tôt à cause de telle ou telle contrainte, bah, j'essaierai de la recréer à un autre moment de la journée. Donc quelque part, une journée sans aube. Alors, je sais que dans le livre, je parle des journées sans aube, mais. Depuis l'écriture du livre, je me suis aperçu que finalement les aubes, quand elles ne sont pas là, il faut les inventer. Je pense qu'on peut se créer à chaque moment des aubes qui ne sont qu'à nous.
Eh bien, merci Rémi.
Ben, merci à vous.
Merci. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sinsnosing.com, rubrique blog, pour découvrir le travail de Rémi Oudguiri. Pour nous contacter afin de nous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SinsNothing en tapant sins.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt!